Record.
Silence, please.
Okay, number one and two, source 3350, control still 570, box 3350, cabin 34.
Good night, Bordeaux.
Number one APUs 3850, number two source 3500.
Go. Well, I didn't see that coming.
Evidently.
Chers amis du 88.1, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Good Night Bordeaux, première émission de cette année 2023. Bonne année à vous et surtout beaucoup de bonnes ondes. Pour nous, ce début d'année est marqué par la disparition soudaine d'un des fondateurs de notre radio. C'est celle de notre ami Philippe Rouillet qui nous a quittés en fin d'année et qui jusque-là nous précédait de peu sur la grille des programmes avec son émission légendaire Au Pays du Théâtre, plus vieille émission de Radio Campus Bordeaux. Merci encore Philippe pour ton investissement déterminant dans la radio et dans la vie de l'université en général. On ne t'oublie pas Philippe. Difficile de faire une transition après ça, vous connaissez toutefois le rendez-vous. Il est l'heure d'entamer notre premier numéro de l'année que nous consacrons ce soir aux reprises, mais pas n'importe lesquelles. Il y a la bonne et la mauvaise reprise. Et là, je m'arrête tout de suite avant de paraphraser un très mauvais sketch des Inconnus. L'art de la reprise, il est extrêmement complexe. Il faut à la fois rendre justice à l'original, ne pas le dénaturer, tout en apportant quelque chose de nouveau, voire de personnel, en s'appropriant quelque peu le travail d'un autre. C'est un grand écart bien plus difficile qu'il n'y paraît. Peut-être même plus difficile que de composer son propre morceau. Et ce soir, on veut vous parler de ces reprises inattendues qui, pour certaines d'entre elles, ont réussi à surpasser l'original. Et je suis entouré de deux personnes que vous commencez à connaître maintenant, chers auditeurs. C'est Anna, salut.
Salut, bonne année.
Et bonne année, bonne santé. Et Romain, bien le bonsoir, camarade.
Bonsoir, meilleurs voeux à tous. Et tous.
Et meilleurs voeux. Qu'est-ce qui, pour vous, a été un critère de choix pour les reprises que vous nous proposez ce soir? On a surtout des reprises des années 60 aussi, je tiens à le préciser. Qu'est-ce qui a été déterminant pour vous?
Pour moi, c'est d'abord essayer de trouver des morceaux dont j'avais absolument aucune idée que c'était des reprises. Notamment un de mes choix qui fait qu'en fait, je me suis posé la question de la reprise dans le sens où, comme tu l'as dit, Lucas, c'est un vrai travail de pouvoir rendre hommage, de s'inspirer, etc. Mais dans la réalité des choses, j'ai l'impression qu'il y a énormément de musique qu'on écoute et qu'on apprécie et qu'on adore et qui sont en fait à la base d'un autre artiste. Parfois, je me suis presque sentie un peu trahie, entre guillemets, de découvrir qu'un artiste que j'adorais, avec une musique que j'adorais, était en fait pas totalement la sienne. Bon, après, c'est une sensation qui passe assez vite, mais voilà, je me suis concentrée là-dessus pour faire mon choix. Et après, pour les deux autres, c'est plutôt des morceaux que je considère comme étant un peu meilleurs de manière très, très subjective, mais en tous les cas, assez différents et qui ont marqué les esprits.
Et Romain, peut-être, tu as eu d'autres critères que Anna ?
Non, pas vraiment. Enfin, moi, c'était vraiment deux des morceaux que j'ai choisis. C'est des musiques les trois, c'est des musiques. Je suis parti du principe qu'on soupçonne pas forcément que c'est des reprises. Parce qu'elles sont tellement connues et ça paraît tellement évident que c'est de la patte de la personne qui l'interprète qu'à aucun moment on soupçonne que c'est une reprise. Ensuite, pour deux d'entre elles, ça flirte entre la reprise et le sample étant donné que c'est une reprise de chansons un peu folkloriques et traditionnelles. Voilà. Mais sinon, moi, mon objectif, c'était. Je suis parti vraiment aussi dans l'idée que, subjectivement, comme dit Anna, le morceau est meilleur, mais ça veut rien dire, quoi, parce que bon, selon les personnes, ça change. Voilà, moi, l'idée, c'était surtout de voir ça comme un peu quelque chose d'inattendu et se dire, ah ouais, en fait, c'est une reprise, alors qu'on pensait que c'était original, quoi.
Ouais, alors, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit jusque-là, et pour moi, sur les trois morceaux que je propose, il y en a deux où c'est en fait les reprises qui ont fini par être 10 fois plus célèbres et populaires que le morceau original. Même il y en a un où l'histoire est plus compliquée que ça, ceux qui ont fait la reprise ignoraient qu'ils faisaient une reprise de quelqu'un de particulier, ils pensaient qu'ils reprenaient un truc de folklore un peu obscur, mais on y reviendra. Et dans tous les cas, les trois chansons dont on va parler là, c'est trois chansons qui, pour les groupes respectifs, enfin, pour les compositeurs d'origine, ont été compliquées à créer, à terminer. Donc voilà, c'est un point commun qui est assez étrange et qui aura son sens quand on parlera individuellement de chaque chanson, vous verrez. Je vous propose qu'on commence, on va aller du côté de chez Smash Mouth, et c'est la chanson I'm a Believer qui est proposée, alors là je ne sais plus, par Anna ou par Romain. Ça s'est fait un peu à l'arrache la préparation, donc là je ne saurais pas qui a proposé quoi, je me rappelle plus. Hein.
Alors, non, I'm a Believer, c'est moi qui le propose. En fait, ce thème, il est aussi super cool parce qu'on peut faire des comparaisons d'époques et de contextes différents. Et du coup, là, pour le coup, ça fonctionne vraiment bien parce que I'm a Believer, c'est un immense succès du groupe américain The Monkees. La chanson est composée par Neil Diamond et elle sort en 1966. Et elle est extraite de leur album More of the Monkees. Et c'est tout de suite un énorme banger, puisqu'il est numéro 1 aux États-Unis, numéro 1 en Grande-Bretagne, plusieurs semaines d'affilée. Single s'écoule à plus de 10 millions d'exemplaires et c'est en fait un des singles les plus vendus de tous les temps. Pourtant, le succès du groupe, il est hyper éphémère, ce que j'ai trouvé assez rigolo aussi pour l'anecdote. Parce qu'en fait, à la base, c'est un groupe qui a été créé pour une série télévisée. Mais le succès s'essouffle assez rapidement et le groupe formé en 65 se sépare en 70 pour la première fois. Et ils vont faire que se reformer et se déformer jusque dans les années 2000. Et en 2001, le titre est repris par les Smash Mouth, qui est un groupe de pop-rock et rock alternatif californien du milieu des années 90. Et c'est à eux qu'on confie ce qui va devenir une référence dans la bande originale de film, selon moi. C'est celle du film d'animation Shrek.
Ah, une référence, effectivement, ouais.
Bah franchement, la bande originale est excellente, du premier du moins. Après, les autres, je ne me rappelle plus. Mais qu'en fait, ce morceau, je trouve que quand on l'écoute, nous, des Smash Mouth, de la nouvelle génération qui a connu Shrek enfant, tout de suite on se dit c'est la musique de Shrek. Comme un autre morceau des Smash Mouth qui fait partie de la bande originale, c'est All Star. Les premières notes, pour ceux qui connaissent Shrek, on sait tout de suite à quoi c'est identifié. Et pour moi, c'est un peu un tour de force de la reprise, puisque le morceau original c'est un succès. Les nouvelles générations savaient peut-être pas forcément que c'était un succès aussi retentissant. Enfin, du moins, ceux qui connaissent pas trop l'histoire de la musique des années 60. Et donc voilà, une reprise, une bonne reprise qui est aussi poussée par un film qui a fait grand bruit.
Et je t'avoue que je savais pas du tout que c'était une reprise et je propose qu'on
Ah
l'écoute
ouais?
tout de suite. Ah non, j'ignore totalement.
Ah bah tu vois.
Voilà, donc on écoute tout de suite I'm a Believer, c'est des Smash Mouth et c'est une reprise. Out of my mind.
ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Chers auditeurs du 88.1, vous écoutez toujours Radio Campus Bordeaux et vous venez d'écouter La Foule d'Edith Piaf. Ça, c'est un morceau que Romain nous propose. On est dans un cycle d'émissions où on parle de reprises. Romain, pourquoi ce morceau-là, La Foule?
Ben, en fait, à vrai dire, quand j'ai fait mes recherches de musique, etc., bon, j'avais quelques idées de morceaux, mais bon, après, je suis allé me renseigner un petit peu pour savoir quels morceaux, enfin, sur Internet, on trouve assez facilement, en fait, des listes de morceaux qui sont des reprises. Et La Foule, ça m'a quand même interrogé, parce que c'est quand même une des chansons iconiques d'Edith Piaf, avec l'hymne à l'amour. Enfin, La Foule, voilà, c'est des chansons, quand on dit Edith Piaf, généralement, c'est les premières qui viennent. Et en réalité, La Foule, alors, c'est une reprise d'une valse péruvienne à la base, qui s'appelle, avec mon magnifique accent espagnol, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, et qui a été composée par Angel Cabral. Elle reprend la chanson en 1957. Ça faisait partie des morceaux où c'était une demi-reprise, parce qu'en fait, elle reprend juste l'instrumental. Mais par contre, les paroles, elles sont d'elle. Et voilà, je trouvais ça intéressant, parce qu'en fait, cette valse, elle a été reprise par énormément d'artistes, notamment Julio Iglesias. Mais voilà, enfin, du coup, c'était plus dans l'idée de montrer aussi un morceau qu'on ne pensait pas être une reprise, mais qui en fait en est un.
Et c'est aussi l'itinéraire du morceau, une fois qu'il a été repris et rendu populaire par quelqu'un, qui peut être parfois très intéressant. On en reparlera pour une autre chanson un peu plus tard dans l'émission. Et je vous propose, là, on va complètement changer d'époque. On va aller, si je me trompe pas, dans les années 80, avec Tainted Love, c'est de Soft Cell, et je crois que c'est Anna qui nous propose ce morceau-là.
Absolument. Alors, Tainted Love de Soft Cell, il est sorti au tout début des années 80, en 1981. Pour moi, c'est la musique dont je j'imaginais absolument pas que c'est une reprise. Pour moi, c'est un morceau iconique des années 80, avec le synthé, la musique électronique, enfin, c'est vraiment hyper typique, donc on a du mal à imaginer que ça ait pu exister à une autre époque. Et pourtant, En fait, c'est une reprise d'une chanteuse américaine, Gloria Jones, dont le single est sorti en 1964, mais c'est un énorme flop, ça marche pas du tout, et ça tombe complètement dans l'oubli jusqu'à la reprise de Soft Cell. Bon, après, Gloria Jones, après c'était déjà qu'elle se retourne plutôt bien, hein, puisqu'elle compose pour les Jackson 5, et elle déménage en Angleterre, où elle devient claviériste du groupe de rock T-Rex.
Au final, ça s'est pas si mal fini que ça.
Non, ça va. C'est juste, voilà, sa carrière de chanteuse en elle-même, d'interprète, n'a pas marché, mais c'est pas très grave. Donc, en fait, ici, la reprise de Soft Cell a fait passer à la postérité le morceau existant. En fait, on a l'impression que le contexte joue énormément dans cette histoire. Pourquoi plus dans les années 80? Bon, bah déjà parce que l'arrangement musical est absolument raccord avec l'époque. Mais dans une interview donnée en 2017 à Libération, le chanteur de Soft Cell, Mark Almond, décrit son morceau comme à la fois prophétique et ancré dans son époque. Donc ancré dans son époque, on a compris. Mais prophétique parce qu'en fait, Tainted Love, ça peut se traduire par amour infecté, entre guillemets. Et on en est au tout début de la médiatisation du sida et l'arrivée d'un virus en Angleterre qui est surnommé GRID, Gay Related Immunodeficiency, commence à stigmatiser la communauté homosexuelle. Donc, en fait, c'est devenu un petit peu un hymne de la communauté homosexuelle, du moins britannique, dans les années 80.
Et je vous propose qu'on écoute donc Tainted Love et c'est The Soft Cell.
Exploitation, exploitation, mutilation, mutations, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. Been spending most of their lives living in a future paradise. Been looking in their minds for the day that sorrow's gone from time. Keep telling of the day when the savior of love will come to stay.
Et on vient d'écouter Pastime Paradise, c'est de Patti Smith. C'est une reprise, toujours, parce qu'on parle toujours de reprises ce soir dans Goodnight Bordeaux. Et ça, c'est Anna, encore une fois, qui nous propose ce morceau-là, si je ne me trompe pas.
Alors voilà, Pastime Paradise, c'est un morceau extrait de l'album de Patti Smith 12, sorti en 2007. Et c'est une reprise, du coup, du morceau de Stevie Wonder qu'il a fait près de 30 ans plus tôt, issu de son album Songs in the Key of Life. Alors en fait, ce que je trouve hyper intéressant avec cette reprise, c'est qu'on peut se demander qu'est-ce que fait Patti Smith, qui est une icône du mouvement punk, qui est un artiste aux multiples talents et aux multiples engagements, voilà, qui s'intègre dans beaucoup de thèmes culturels. Qu'est-ce qui fait qu'elle reprend ce morceau de Stevie Wonder, dont les influences artistiques peuvent paraître plutôt opposées, en fait. Que, voilà, on connaît Stevie Wonder, on connaît ses morceaux funk, soul, presque disco.
Et précurseur de musique, ce qu'on appelle la musique urbaine aussi. Là, typiquement, oui. Avec ce morceau-là, on était clairement là-dedans. Et c'est vrai qu'on est loin du spectre artistique de Patti Smith, effectivement. Ouais.
En fait, elle a repris ce morceau d'abord parce qu'en fait, tout l'album est un album de reprises, mais d'artistes assez peu étonnants pour elle. Elle a repris les Doors, les Rolling Stones, Nirvana, mais Pastime Paradise, il revêt un goût assez particulier, je trouve, dans tout cet album de reprises, puisque en fait, il a un aspect hyper jazz avec cette espèce de basse tout du long qui lui donne vraiment une autre perception du morceau original. Et en fait, on se rend compte que ce morceau, dans la discographie de Stevie Wonder, il est super particulier, que les paroles, elles détonnent complètement avec ce qu'on connaît de l'artiste. Il parle de ségrégation raciale, de religion, ce qui fait figure vraiment d'extraordinaire dans la carrière de Stevie Wonder. Et donc, c'est peut-être ce qui a tapé dans l'œil de Patti Smith, qui le positionne en dernier morceau de son album. Donc, en soi, ça lui donne une place assez particulière, je trouve, rien que dans la configuration de son album. Pour le coup, ça en a vraiment pour ceux qui écoutent cet album. Et pour l'anecdote, on connaît tous, quasi toutes et tous, la reprise du morceau qui est encore plus connue que celle de Patti Smith, celle du rappeur Coolio, Gangsta's Paradise de 1995. Et c'est un tel succès que Pastime Paradise fut l'un des morceaux les plus connus de Stevie Wonder alors qu'il n'est jamais sorti en single.
Bien, merci Anna pour ce morceau, Pastime Paradise. Et je vous propose qu'on enchaîne avec un autre morceau, c'est Hurt de Johnny Cash. C'est un morceau qu'on a déjà diffusé il n'y a pas si longtemps, mais dans un contexte totalement différent. Et c'est Romain qui nous propose ce morceau-là.
Tout à fait. Mais tu vois, j'avais complètement oublié qu'on l'avait diffusé. Mais Hurt de Johnny Cash, bon, pareil, c'est une de ses chansons iconiques. Et en fait, à la base, elle a été chantée, enfin, elle a été composée, chantée, interprétée par un groupe de metal et de metal industriel et de rock alternatif américain qui s'appelle, passez-moi mon allemand déplorable, mais Nine Inch Nails, dans les années 93-94. Et en fait, la chanson est sortie en 1995 et Johnny Cash, lui, l'a reprise en 2002. Et c'est d'ailleurs une de ses dernières chansons avant qu'il décède. Et voilà, cette version-là est acclamée par la critique complètement. Enfin, et généralement, quand on pense à Hurt, on pense tout de suite à Johnny Cash et on oublie le groupe en fait derrière. Qui pourtant, ça, enfin, je veux dire, c'était il y a 7 ans avant, quoi. Il n'était vraiment pas long. Et voilà quoi. Enfin, c'est une chanson qui est iconique de Johnny Cash et voilà et qui a surpassé. Enfin, il me semble qu'il a surpassé celle du groupe original, quoi.
Ah oui, largement, largement. Et puis même en termes de production, d'émotion qu'elle dégage, même si elle est beaucoup plus simpliste dans les faits, je la trouve bien plus aboutie que l'original.
Oui,
que
c'est sûr.
Nine Inch Nails, on y reviendra, hein, mais je pense que des fois aussi, s'il y a une reprise, c'est que la chanson d'origine, le groupe d'origine, n'avait peut-être pas réussi à aboutir l'idée qu'ils avaient de base jusqu'au bout. Et donc je vous propose qu'on écoute cette chanson, c'est Hurt de Johnny Cash.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Thank you.
from this place. I gotta quit you, yeah. Oh, baby, 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 baby. Oh, don't you hear it calling him? Oh, woman. Woman, I know, feels good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow, yes it is. We're gonna go walking through the park every day.
Et chers auditeurs du 88.1, vous êtes toujours à l'écoute de Goodnight Bordeaux. On vient d'écouter Babe, I'm Gonna Leave You, c'est de Led Zeppelin. Et moi, grand fan de Led Zeppelin, j'ai été dans l'erreur pendant des années pensant que c'était une de leurs chansons originales, sauf que non. Elle était écrite à l'origine par Anne Bredon en 1950 et Jimmy Page a longtemps prétendu ne rien en savoir jusqu'aux années 90 où le fils de la compositrice a menacé de les emmener au tribunal pour violation de droits d'auteur. Du coup, il s'est rapidement ravisé parce qu'il avait déjà perdu 2-3 autres procès Led Zeppelin sur ce genre d'affaires-là. Et au final, donc, la chanson est bien à Anne Bredon et depuis, il crédite expressément Anne Bredon sur les réimpressions des albums qu'ils font. Et la chanson a été enregistrée en 1969 côté Led Zeppelin. On suppose que le groupe l'a découverte via la reprise qu'avait fait Joan Baez, qui l'a reprise en 62, mais ils ont quand même largement modifié l'arrangement en donnant tour à tour des aspects plus hispaniques au début ou plus hard rock primitif sur les refrains. Alors, hard rock primitif de l'époque, parce qu'on est en fin des années 60, donc le hard rock n'existe pas encore vraiment. Et ils ont quand même, c'était l'argument de Page au début pour refuser de créditer Anne Bredon, c'était qu'ils avaient largement modifié l'arrangement suffisamment pour considérer que c'était leur chanson à eux et plus à elle. C'est de très mauvaise foi, ils ont même pas osé aller au tribunal avec cet argument-là, et c'est peut-être pas plus mal au final. Et puis voilà, c'est le mythe est tombé. Quand on a préparé cette émission, d'ailleurs, il y a à peine 48 heures, le mythe est tombé, ce n'est pas une chanson originale de Led Zeppelin. Et je vous propose qu'on reste dans les années 60 avec un autre morceau que je vous propose, c'est All Along the Watchtower, c'est de Jimi Hendrix, et là aussi, c'est une reprise qui a, pour moi, complètement éclipsé l'original. All Along the Watchtower, à l'origine, c'est un morceau de Bob Dylan, qu'il a écrit en 1967, et elle a été reprise par Hendrix seulement 6 mois après sa sortie sur l'album Electric Ladyland, et depuis, bah, c'est cette version qui est restée la plus célèbre, à tel point que Dylan a déclaré à plusieurs reprises que chanter cette chanson, qui est pourtant la sienne, c'est un peu comme rendre un hommage à Jimi Hendrix par rapport à l'arrangement original. La version Hendrix est bien plus développée, ce qui fait que elle est plus longue, évidemment. L'harmonica s'est fait remplacer au profit de plusieurs solos de guitare. La guitare acoustique garde sa place centrale dans l'ensemble, pourtant qui devient bien plus rock qu'à l'origine avec Hendrix. Et malgré la rapidité pour sortir la chanson, seulement 6 mois après l'apparition de l'original, le travail a été long. Hendrix n'était pas du tout satisfait du résultat du premier enregistrement, qui était sur 4 pistes, ce qui est déjà pas mal à l'époque. Et petit à petit, il a poussé le vice jusqu'à superposer 16 pistes, qui pour l'époque étaient stratosphériques et surtout extrêmement chères. Et je vous propose qu'on écoute donc cette chanson qui est devenue un chef-d'œuvre et qui a surpassé l'original. C'est All Along the Watchtower, repris par Jimi Hendrix.
Must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
Chers amis du 88.1, nous venons d'écouter House of the Rising Sun, c'est des Animals, c'est proposé par Romain, et là aussi, encore une fois, bien, c'est une reprise, même si le titre est extrêmement populaire sous cette forme-là, la version originale, c'est pas les Animals.
Tout à fait, comme la foule de Edith Piaf, en fait, l'original, c'est une chanson traditionnelle américaine de folk, et en fait, qui a été chantée par beaucoup de gens, enfin, qui est très très connue aux États-Unis. Et le groupe l'a reprise et en fait ils l'ont entre guillemets magnifié parce que finalement maintenant cette chanson on l'associe à The Animals. Enfin je veux dire, quand elle est sortie en 1964, le groupe britannique, même d'ailleurs, ça a été un succès international. Enfin, quand ils ont chanté la chanson, elle était numéro un au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada. Et cette version-là a même eu plusieurs reprises. En France, on connaît notamment la reprise de Johnny Hallyday, qui a chanté Le Pénitencier, et en reprenant, en reprenant cette chanson, quoi. Et en fait, les plus anciennes interprétations de cette chanson, on les fait remonter jusqu'en 1941 par Woody Guthrie. Mais voilà, comme je disais, jusque dans les années 60, en fait, beaucoup de groupes reprennent la chanson, comme voilà, mais c'est vraiment The Animals qui arrive à la populariser à un rang international, quoi.
Et je vous propose donc qu'on écoute ces House of the Rising Sun, c'est The Animals, et bien évidemment, comme d'habitude, c'est une reprise. Et on vient d'écouter donc House of the Rising Sun, c'est des Animals, et on va se quitter sur une dernière chanson, chers amis auditeurs. C'est Videotape, qui à l'origine a été composée par Radiohead, et plus précisément écrite par Thom Yorke, le chanteur, courant 2006, ou peut-être même bien avant, ça dépend des sources. Elle a été jouée plusieurs fois en live avec divers arrangements, avant d'être fixée dans sa forme assez minimale qu'on lui connaît sur l'album In Rainbows. En réalité, c'est un duo piano-voix avec un petit peu de boîte à rythme derrière, mais rien de plus. Et encore une fois, ça a été une chanson difficile à terminer, comme ça a été le cas pour Babe, I'm Gonna Leave You, ça a été une composition assez compliquée, comme je vous ai proposé juste avant. All Along the Watchtower, pareil pour Hendrix, ça a été compliqué à reprendre. Et là, Videotape, pour la version originale, pour Radiohead, elle a été compliquée à mettre en place parce que personne dans le groupe n'était en accord sur la forme qu'elle devait avoir. Et la reprise que je vous propose par Christian Scott Atunde Adudja, je trouve qu'elle compense tout ce dont Radiohead a dû se débarrasser faute de consensus. Un petit mot quand même sur Christian Scott. C'est un trompettiste de jazz américain qui a étudié à la Berklee School of Music, donc c'est pas un abruti, et dont un des premiers jobs en sortant de cette école a été de jouer en tournée pour Prince, puis d'enchaîner 3 ans plus tard, au même poste, toujours trompettiste, mais de jouer avec Marcus Miller, qui Marcus Miller était lui-même le bassiste de Miles Davis. C'est un peu la consécration quand même, très très vite dans la carrière. Et je tiens à remercier Loïc, parce que c'est Loïc qui avait, un de nos chroniqueurs, qui avait proposé ce morceau-là il y a 2 ans dans l'émission, et je le ressors, parce que c'est une reprise qui est tout simplement excellente. Et je vous propose qu'on se quitte donc sur ce morceau, c'est Videotape repris par Christian Scott, et on se retrouve nous dans 2 semaines. Merci Anna, merci Romain d'avoir été avec nous, et merci chers amis auditeurs de nous avoir suivis pendant cette heure. À dans 2 semaines.